Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Bonjour, je suis Agathe Le Caron. Bienvenue dans Aix, le podcast qui vous parle d'amour au travers d'histoires toujours extraordinaires. Merci à Clémentine Delagrange qui a réalisé cet épisode et à Fabien Calusa et Alexandre Ferreira qui l'ont monté et mis en musique. Audrey a 18 ans quand elle rencontre l'amour, le vrai. À 18 ans, a-t-on le droit de tout sacrifier alors que c'est l'âge où on doit tout construire? Quand la raison vient embrouiller le cœur, doit-on l'écouter? Les parents d'Audrey auraient peut-être dû se poser cette question. Parce que le cœur a ses raisons.
On est en 2010. J'ai 18 ans. Je suis une jeune femme classique, banale, en terminale. Voilà, j'ai beaucoup d'amis, je sors souvent. Je traverse un épisode de plat sentimental à ce moment-là, mais bon, ça me dérange pas plus que ça. Je suis pas à la recherche d'une histoire d'amour. Et du coup, à une soirée, on se connecte avec des amis sur Chatroulette. Donc, certains connaissaient pas, ça venait de sortir. C'était un site internet où on était en contact avec n'importe qui dans le monde entier par vidéo. C'est pas un site de rencontre. C'est un site pour rigoler. Chacun peut appuyer sur Next et tomber sur une autre personne, au hasard. Et là, je tombe sur un jeune Chilien avec mes amis, et il était avec son frère. On commence à discuter du coup par caméra. On les voit et eux nous voient. Il y a la barrière de la langue quand même. Du coup, on parle avec un anglais très approximatif. Avec mes amis, on n'est pas très fort en anglais, mais plus en espagnol. Ça tombe bien, puisqu'au Chili, on parle l'espagnol. Donc, on commence à parler plutôt en espagnol très rapidement. Et on s'ajoute sur Messenger et on continue la discussion. On parlait de musique, qu'est-ce qu'on écoute au Chili, qu'est-ce qu'on mange, voilà, de différences culturelles un peu, parce qu'on trouvait ça complètement dingue qu'il soit au Chili, parce qu'on tombait sur beaucoup d'Européens, en général sur Chatroulette. Et là, on est tombé sur des mecs au Chili, donc c'était complètement fou, quoi. Je l'ai trouvé très beau, je l'ai trouvé très attirant, mais c'était pas mon objectif, on va dire, d'avoir une aventure avec un mec au bout du monde. Donc vraiment, je suis plutôt attirée vers la différence culturelle, vers la langue, vraiment vers tout ça, qui m'attire vraiment comme un aimant. Et du coup, bon, la soirée passe. Les jours suivants, quand je le vois connecté, donc on s'appelle en vidéo tout de suite, quoi. Et ce qui est rigolo, c'est qu'on s'est rencontrés en vidéo et du coup, on continue à se parler toujours en vidéo et à échanger beaucoup, à essayer de parler avec moi, mon espagnol très approximatif. Et du coup, au lycée, je suis passée de 15 de moyenne à 18 en un trimestre. Mais rapidement, je me suis rendue compte que je pensais beaucoup à lui quand j'étais seule, quand j'avais un moment dans la journée, dans la voiture, quand j'allais au lycée en voiture, je me rappelle, je pensais à lui. Et ça me faisait peur. Ça me faisait très, très peur. Je sentais beaucoup de force. Mes pensées étaient orientées vers lui, vraiment, mais H24, quoi. Et c'était un inconnu. Je ne l'avais jamais vu. Alors, au bout d'un mois, on va dire, j'ai commencé à avoir des sentiments qui sont en train d'arriver. Et ce qui m'a beaucoup attirée, entre guillemets, c'est que, bon, j'avais déjà connu des garçons sur Internet, ou quoi, français, bien sûr. Mais on me demandait toujours si j'avais un copain, on orientait les questions un peu niveau couple, sexe, etc. Et là, lui, c'est quelque chose qu'il m'a jamais demandé. Donc vraiment un échange intéressant, vraiment sur nos cultures. Et puis ça nous arrivait de manger ensemble à table par vidéo. On se parlait tous les jours pendant des heures. Très vite, on était drogués l'un de l'autre, quoi. Je vais dire très vite et très naturellement. Tout de suite, c'est moi qui lui ai dit « Écoute, je commence à avoir des sentiments pour toi, quoi. » C'était réciproque. Mais je suis lycéenne, j'ai pas d'argent. Lui, il est vendeur de glace au Chili, 22 ans, moi 18. ça nous paraît impossible, quoi. On se pose beaucoup de questions. Moi, je vais voir un psy parce que je comprends pas pourquoi j'ai autant d'attirance pour lui. J'ai été bouleversée en ressortant de là. Du coup, elle m'a expliqué que j'avais une famille un peu rigide, qui n'exprimait pas beaucoup de ses sentiments, qui n'était pas très libre d'esprit. Moi, j'étais complètement à l'inverse d'eux et que c'est ce que je recherchais et que probablement, c'est ce que je rechercherais toute ma vie dans une relation. Cette histoire, j'en ai pas parlé à mes parents. Déjà, je savais qu'ils avaient des raisonnements assez rigides. Il fallait penser aux études et avoir un petit copain plus tard, quelqu'un de bien, quelqu'un qui a un bon métier, etc. Enfin, c'était un peu leur idée, quoi, hein, de la relation. Donc, je ne leur en ai pas parlé, mais ils savaient que je parlais avec un jeune Chilien et que je progressais beaucoup en espagnol et tout. Donc, ils n'y voyaient pas vraiment d'inconvénient puisqu'ils ne se sont jamais imaginés qu'il y aurait quelque chose qui arriverait entre nous, quoi. Et au final, j'ai décidé de suivre mon cœur avec ce jeune Chilien qui s'appelle Mauricio. On parle beaucoup de nos sentiments et vraiment, on est complètement transparents l'un envers l'autre, ce qui est très rassurant. Et vraiment, ça coule de source entre nous. Donc vraiment, j'ai aucun doute par rapport à lui, même si je ne l'ai jamais vu. Je tombe très vite amoureuse. Parfois, on a baissé les bras, on s'est dit, bon, c'est pas viable, ça marchera jamais, hop, on tourne la page. Mais je ne pouvais pas et lui ne pouvait pas non plus, quoi. On était collés l'un à l'autre comme des aimants. Très vite, on décide de monter des stratégies pour se rencontrer. Donc au début, la première pensée, c'était « on va jamais pouvoir y arriver ». Et puis, on a commencé à essayer de réfléchir. Alors là, je fais croire à mes parents que je vais faire un voyage scolaire pour améliorer mon anglais. Donc, je fais faire un passeport et ils se doutent de rien. J'ai jamais voyagé comme ça à l'autre bout du monde et on se dit que c'est peut-être un peu dangereux. Il me dit « écoute, je mets de l'argent de côté ». Je te le promets, c'est moi qui va venir et on va se rencontrer. Il vend sa moto, il prend un prêt et il achète son billet d'avion. Donc ça, c'était au mois de juin, je me rappelle, et la rencontre était prévue pour le mois de décembre. On ne s'est jamais vu et on se considère en couple. On reste quand même vigilants et transparents l'un envers l'autre. On parlait beaucoup de nos réactions quand on se verrait. On se disait, il se peut très bien qu'on se voit, mais que ça ne matche pas physiquement. On se disait que peut-être le feeling qu'on a sur Internet comme ça ne serait pas là dans la réalité. Et on était prudents. Il y avait quand même quelque chose de très fort qui était là, quoi. Alors, les mois passent très lentement jusqu'au mois de décembre, ce qui nous a paru une éternité. Finalement, le jour arrive, un 17 décembre 2010. Donc, beaucoup de neige en France. Je prends ma voiture avec prudence pour aller à la gare et là, je prends le RER pour aller à Charles de Gaulle. Je me suis cachée derrière un poteau pour voir les arrivées, derrière la vitre en verre. Là, j'ai le cœur qui bat à 1000, mais en même temps, je sais pas, j'ai pas peur de la rencontre. J'étais très excitée, j'avais très envie de le voir et en même temps, j'avais l'impression que mon cœur allait exploser quand j'allais le voir, quoi. Du coup, je le vois là derrière la vitre et ça m'a fait un effet de fou parce que j'avais l'impression de voir une star de cinéma en fait. Quelqu'un que vous voyez toujours à la télé et que vous voyez pour de vrai un jour comme ça. Et ça m'a fait un peu cet effet-là, quoi. Et là, c'était réel. Il est sorti. Là, je le prends dans mes bras et me prend dans ses bras. Je sais pas qui a embrassé l'autre en premier parce que ça s'est fait complètement spontanément et on s'est embrassé. Et vraiment, c'était une scène de cinéma, quoi. Clairement. Beaucoup d'amour, et là, voilà, on sent l'odeur l'un de l'autre. Enfin, ça nous paraît irréel, quoi, ça nous paraît fou. Et en même temps, il n'y a aucune appréhension. On part de l'aéroport, main dans la main, évidemment, et je le regarde. Et là, je lui dis, mais en fait, j'ai l'impression que tu reviens. J'ai l'impression de t'avoir toujours connu. Et lui, c'était la sensation qu'il avait aussi, comme moi. On avait décidé d'aller à l'hôtel parce que mes parents, comme ils sont un peu rigides et qu'on savait qu'ils allaient prendre la chose pas très bien, on voulait être tranquille pour se rencontrer, etc. Mais entre-temps, ma sœur a tout dit à mes parents parce qu'elle était inquiète pour moi. Au final, mes parents, ils n'ont pas autant sauté au plafond que ce que je pensais. Mais je voyais qu'ils étaient sur la réserve, quoi. Ils ont dit « Non, 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 vous n'allez pas à l'hôtel, vous venez à la maison ». Donc, il est venu à la maison. Là, il dort dans ma chambre et moi dans le salon. On parle à table avec mes parents, du coup, différences culturelles, on essaie de se comprendre comme on peut, ce qui était assez rigolo, mais en même temps, je sentais qu'il y avait une tension quand même, une certaine distance avec mes parents. Et puis, ben, ils ont vu que je le regardais avec des yeux langoureux, que je n'avais d'yeux que pour lui et ça se voyait à 1000 kilomètres, quoi. J'ai pas eu d'autre choix que d'avouer que j'avais des sentiments pour lui. Comme les sentiments étaient vraiment confirmés et qu'il y avait toujours quelque chose de très fort entre nous quand on s'est rencontrés dans la réalité. Pour mes parents, c'était inconcevable, quoi. Je pouvais pas rencontrer un mec à l'autre bout du monde et foutre ma vie en l'air, pour reprendre leurs mots. Là, il y a des mots violents qui fusent, des cris. Comme moi, je dormais dans le salon et lui dans ma chambre, j'allais en douce le retrouver. Il y avait beaucoup d'amour entre nous, quoi, forcément. Voilà. Et puis, je redescendais en cachette dans le salon. Je ne sais même pas comment mes parents, ils n'ont pas vu ce qui se passait à ce moment-là. Physiquement, ça match entre nous vraiment à 2000%. J'avais la sensation, vraiment pour la première fois de ma vie avec un garçon, d'être moi-même sans jouer de jeu. Sans devoir être une autre personne pour qu'on m'apprécie ou pour qu'on tombe amoureux de moi ou voilà. Les 15 jours passent difficilement, on va dire, avec ma famille. Et si bien qu'un soir, ma mère, elle m'a mis un ultimatum et elle me dit, bah, écoute, soit tu pars, tu fais ce que tu veux avec lui, on ne veut plus entendre parler de toi, soit tu restes. Et tu fais les choses comme il faut, quoi. Mais lui, il s'en va et ciao, quoi. Et là, je pense que ma mère, elle ne s'attendait pas à ce que je le suive. Ma mère était vraiment dans une colère noire, prête à nous mettre dehors, quoi. J'ai pris 2-3 t-shirts, 2-3 culottes, vraiment n'importe quoi comme ça en passant. Et bien sûr, mon passeport. On est partis. Tous les deux, ma mère nous a déposés à la gare. Là, on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que je rentre chez mes parents, la queue entre les jambes, ou est-ce que je le suis et je prends un billet pour repartir avec lui au Chili, quoi. Et c'est ce que j'ai fait. On a beaucoup discuté, on était très inquiets, très préoccupés par la situation. Je n'étais pas du tout « Youhou, allez, je pars avec toi, je te suis ». Non, j'étais inquiète pour mes études. Voilà, de le suivre là-bas, je n'avais pas trop ce qui m'attendait. Le 31 décembre, nous voilà embarqués dans l'avion pour le Chili. C'était la première fois de ma vie que je prenais un long courrier. J'avais jamais fait ça, j'avais jamais été aussi loin comme ça. Et là, j'arrive le 1er janvier, 30 degrés dehors, l'été, voilà. Et là, ça m'a paru complètement fou, puisque c'est quelque chose que j'avais jamais vécu. J'arrive chez ses parents. Ses parents nous soutiennent beaucoup. Ils sont très rassurants. Ne t'inquiète pas, on va prendre soin de toi. Tu seras bien ici avec nous. Tout va bien se passer. J'apprends à connaître ses parents, sa sœur et ses frères, dans quel endroit il vit, comment pensent les gens un petit peu, qu'est-ce qu'on mange là-bas. Voilà, je m'imprègne un peu de tout ça. On part camper au bord de la cordillère des Andes, au bord des cascades, etc. Et là, c'est le rêve, je vais dire. Même si j'avais de l'inquiétude au fond de moi pour la suite, je vivais un rêve éveillé, quoi. Du coup, mes parents ont repris contact avec moi en très peu de temps. Là, suite à la pression de mes parents, je décide de rentrer au bout d'un mois passé au Chili pour passer mon bac. Ça a été déchirant pour moi et Mauricio. Quand je décide de rentrer, moi, je lui ai dit franco que je reviendrai après mon bac. Que là, j'avais une première preuve, en gros, qu'il y avait des choses qui étaient possibles de faire, même si c'était fou. Il y a des choix qui étaient possibles à faire, quoi. Là, je rentre en France, le cœur déchiré de le laisser là-bas, mais en même temps avec un objectif. Vraiment travailler pour avoir mon bac. Mes parents recommencent, on va dire, avec du chantage, avec des mots blessants. Les repas se passent pas très bien parce que c'est le moment où on est tous réunis dans la même pièce, on va dire, et où les mots fusent. J'arriverai à rien. Il y a rien de bon qui m'arrivera, que c'est pas un garçon pour moi, qu'il a rien, On essaie de me mettre des choses dans la tête comme quoi il ne voit que l'argent, que ma situation en France, que son but, c'est de venir pour la nationalité ou des choses comme ça, ce qui est absolument pas plausible parce que lui, il a pas l'intention de remettre les pieds dans ce pays après ce qui lui est arrivé et l'accueil qu'on lui a donné. Voilà. Donc moi, je sais très bien que c'est complètement faux. Mais mes parents, pris de peur, me disent tout et n'importe quoi pour me dissuader, en fait. Le moment du bac arrive, je l'obtiens haut la main avec mention en plus, donc fière de moi et de ce que j'accomplis. Aussitôt, je reprends un billet d'avion. J'avais fait des petits boulots pour gagner un peu de sous. Et je repars là-bas après mon bac. Je retourne au Chili, retrouver mon chéri, et là, c'est les retrouvailles. Malheureusement, là-bas, j'ai pas trop d'issue. Je reste 6 mois sur place en visa étudiant. Je me pose des questions parce que je me dis qu'est-ce que je vais faire ? Il faut que j'arrive à trouver un moyen de travailler sur place parce que les études, c'était pas possible parce qu'au Chili, c'est trop cher. Les gens s'endettent pour étudier. Là, je cherche le moyen de travailler. En fait, je me rends compte que c'est pas possible si on n'a pas d'autorisation de travail, quoi. Je prends la décision de revenir en France pour mes études, mais je dis à mes parents, écoutez, je reviens en France là, mais notre histoire est toujours là. C'est pas un adieu à Mauricio. Je rentre en France faire mes études et lui, il va me suivre. Voilà. Donc, on s'est orienté à ce que je rentre en France pour mes études et que lui vienne en France par la suite. Donc, en tout, je suis restée un tout petit peu moins d'un an au Chili. Je rentre en France, au plus grand bonheur de mes parents. Je passe des concours pour commencer une école d'infirmière. Alors là, c'est la galère qui commence. On se renseigne sur les démarches à faire pour que lui me rejoigne. Et on se rend compte que pour avoir un visa de travailleur, il faut avoir une profession un peu particulière où il n'y a pas beaucoup de personnes en France qui sont qualifiées pour telle profession. On regarde pour un visa étudiant. Ce n'est pas possible parce qu'il faut démontrer qu'on a les ressources économiques pour subvenir à nos propres besoins quand on est étudiant étranger en France. Ce que Mauricio n'a pas. Et la dernière solution, c'est le mariage. Mais là, vu la distance qu'il y a entre lui et mes parents, c'était pas envisageable non plus, puisqu'à ce moment-là, j'étais très dépendante de mes parents. On voulait pas faire ça comme ça, pour ça. Et du coup, il y a quelques mois qui se passent. Je commence mes études d'infirmière. Il vient me voir tous les 6 mois. Je travaille un petit peu à côté de mes études. Lui, il met de l'argent de côté, mais c'est pas évident parce que les salaires sont pas les mêmes au Chili. On fait vraiment avec le peu d'argent qu'on a à mettre tout de côté. Je me souviens que là, j'évite de m'acheter du maquillage. Vraiment, je mets tout mon argent de côté pour qu'on puisse se voir, quoi. On se décourage parfois. Ça nous arrive de pleurer, toujours par caméra, parce qu'on se parlait toujours par caméra depuis le début. Via Skype ou via Messenger. Et on se décourage ensemble, mais au final, on ne baisse pas les bras. On se voit tous les 6 mois et ça a duré comme ça 2 bonnes années. Moi, j'étais excédée au bout d'un moment parce qu'on n'avait pas d'issue. On ne savait plus quoi faire. À chaque fois qu'on relançait les démarches pour voir un peu les requis pour telle ou telle démarche, y avait des obstacles énormes, quoi. Sauf pour le mariage. Mais ma famille, ça bloque, quoi. Je sais pas comment leur dire. J'ai 21 ans. Et là, je me dis que c'est fou que je puisse penser à me marier à 21 ans, quoi. Mais en même temps, on n'a pas d'autre solution. Donc, on prend rendez-vous à la mairie avec Mauricio. On récupère très, 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 très vite tous les documents nécessaires et on dépose notre dossier de mariage. On pose une date pour le 12 septembre 2014. Il repart au Chili, entre-temps. Et il revient en septembre pour le mariage. Mes parents laissent faire le mariage. Ils sont pas non plus enchantés. Ils sont quand même très inquiets de ce qui va découler de ça. Et mon papa n'est pas prêt du tout à me voir me marier avec lui. Donc, il ne vient pas au mariage. Ce qui m'a pas vraiment blessée parce que je savais un peu son état d'esprit et je savais que c'était dur pour lui. Donc le 12 septembre 2014, il y avait un soleil superbe, j'étais très heureuse. Mauricio, lui, il est un peu plus stressé, parce que là, à ce moment-là, il comprend le français, mais il ne le parle pas bien. On se dirige à la mairie avec ma sœur, ma mère et quelques amis qui m'accompagnent ce jour-là. C'était très convivial, du coup, pas du tout calculé et pas très organisé, mais au final, c'est bien comme ça. Et on va faire un petit cocktail dans mon petit appartement parisien de 12 mètres carrés, vraiment, voilà. Et le soir, on va dans un resto semi-gastronomique avec Mauricio, tous les deux. Je réalise quand même que c'est le début de notre vie ensemble. C'est le début de la victoire, en fait. Parce que là, il y avait tant de doutes, tant de difficultés énormissimes devant nous pendant les dernières années. Et là, enfin, un espoir, une lueur. Et enfin, un accomplissement et une réussite pour nous. Suite au mariage, il est reparti au Chili parce qu'il fallait qu'il retourne dans son pays d'origine pour faire ses papiers, pour me rejoindre. En un mois à peine, il était revenu en France, définitivement. Alors là, bon, d'une part, c'est notre rêve qui se réalise de pouvoir être définitivement ensemble et d'avoir le droit de vivre notre amour plus sereinement. Mais du coup, c'est une inquiétude aussi, d'autre part, sur le plan professionnel pour Mauricio, parce qu'il n'a pas de diplôme. Il a fait que des petits boulots au Chili, à droite, à gauche. Et du coup, là, je dois l'aider. Donc, moi, je lui dis franco, écoute, tu parles espagnol, c'est un atout pour toi à Paris, parce qu'à ce moment-là, on vit sur Paris. Je lui dis, il faut que tu te lances sur l'hôtellerie-restauration parce que c'est le seul secteur qui recrute sans vraiment de diplôme et tu as l'atout de la langue. On cherche à droite à gauche, mais ça aboutit à rien. Moi, je continue mes études d'infirmière parce que là, à ce moment-là, je n'ai pas fini mes études. Donc voilà, on n'a pas beaucoup d'argent. Du coup, c'est vrai qu'on avait quand même un peu des appréhensions à vivre ensemble définitivement et vivre le quotidien parce qu'on disait que ça ne va pas être la même chose que d'être à distance. Peut-être qu'on va découvrir des aspects de l'un ou de l'autre dans le quotidien qui nous dérangent, qui ne vont pas, etc. Mais comme j'avais vécu près d'un an déjà au Chili avec lui au quotidien, j'étais quand même rassurée. Il arrive dans l'hôtellerie grâce à un contact de mes parents. Et là, il stresse complètement parce qu'il n'a pas confiance en lui. Il a peur de mal parler, de ne pas comprendre. Il a extrêmement peur de ne pas comprendre les clients, ses collègues. Et au final, il apprend sur le tas en France, quoi. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Il n'a jamais pris de cours de français. Il essaie de copier un peu ses collègues au travail sur les mails qu'ils envoient aux clients, par exemple. Et c'est vraiment en copiant comme ça qu'il a appris le français comme un petit enfant qui apprend une langue, en fait, quoi, par mimétisme, en fait. Je suis super fière de lui dans ses premiers mois de vie commune, puisqu'il a, là, il réussit à avoir un travail, à le garder, à ce qu'on l'apprécie à son travail. Il apprend le français plutôt bien, il s'adapte bien. J'obtiens mon diplôme d'infirmière. C'est une nouvelle vie parce que je vais enfin pouvoir travailler, avoir un salaire et on va pouvoir envisager d'avoir un appartement plus grand. Mauricio passe réceptionniste de jour. Donc, une grosse avancée pour lui parce que le travail de veilleur de nuit et de réceptionniste de jour n'est pas du tout le même. Et là, on décide de changer d'appartement. Donc, on va dans la banlieue parisienne, dans les Yvelines. Première semaine, dans le nouvel appartement, je découvre que je suis enceinte. J'étais toute seule à la maison. Et là, je découvre ça et j'y croyais pas. Et pour moi, c'était presque trop tôt, en fait. Je m'attendais pas à ce que ça arrive si vite, même si on le souhaitait. Là, à ce moment-là, j'arrive pas à me calmer, j'arrive pas à retenir l'émotion qui explose en moi. J'ai pas pu attendre de lui faire une annonce, une surprise, ou comme on peut le voir souvent, mais là, c'était impossible à contenir, quoi. En plus, on se dit tout. En fait, on a toujours été tellement transparents l'un envers l'autre pour tous les sujets que là, je peux pas ne pas lui dire dans l'immédiat, quoi. J'appelle Mauricio qui est au travail. Il est super heureux, il explose de joie, il dit « c'est pas vrai, on va avoir un bébé et tout, c'est magnifique quoi ». En 2017, j'accouche d'une petite fille qui s'appelle Chloé. C'est le fruit de notre bataille, de notre amour et on est très heureux à ce moment-là. On mesure tout ce qu'on a traversé, oui. Et là, en fait, je réfléchis et je me dis « mais mon Dieu, c'est pas possible, je l'ai rencontré ». Au hasard, sur Chatroulette, vraiment sur un coup de hasard, quoi. Il y avait 0,001% de chance que ça aboutisse, quoi. Pour moi, c'est vraiment ça. Et là, en fait, ça aboutit, quoi. Mais du coup, on a eu encore des épreuves par la suite, puisque à l'arrivée de notre fille, Mauricio a une grosseur au niveau du cou. Et on se pose des questions. Du coup, il voit le médecin, il passe des examens. C'est un kyste banal. Il se fait opérer. L'opération se passe très bien. On est content, il récupère bien. Mais rendez-vous post-opératoire avec le chirurgien. C'est un cancer. C'est un cancer thyroïdien sur un kyste. Chose qui est extrêmement rare. On est très inquiet. Donc, la tumeur est enlevée. Mais il doit se faire enlever la thyroïde complètement pour minimiser les risques de récidive de cancer sur sa thyroïde saine. Il se fait opérer une deuxième fois dans la foulée. On est un peu anéanti parce que on vient d'avoir un bébé, on s'est battu énormément pour notre bonheur et il y a ça qui nous tombe dessus. Donc moi j'étais dans tous mes états avec là j'ai les hormones en ébullition en plus avec la fin de grossesse, la naissance, etc. Et tout arrive en même temps. Mais toujours comme d'habitude, on se soutient mutuellement. Je suis très très présente pour lui. Du coup, on pleure beaucoup, on est inquiet, mais on passe les étapes les unes après les autres. La chirurgie, voilà, les traitements. Il a la chance de pas recourir à de la radiothérapie ou de la chimiothérapie, puisque ce type de cancer se soigne très 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 bien avec des très très bons résultats. Mais il passe une thérapie à l'iode radioactif. Du coup, notre fille a 2 mois et je dois être séparée de lui pendant 1 mois parce que l'iode radioactif est dangereux pour les thyroïdes saines des personnes entourant Mauricio. Il est mis à l'isolement. Du coup, on revient en Seine-et-Marne, on part des Yvelines. Je m'installe chez mes parents et lui dans la dépendance juste à côté. Donc, on se voit régulièrement par la fenêtre ou à plusieurs mètres de distance, mais il n'a pas le droit de prendre son bébé dans ses bras. Je n'ai pas le droit de l'approcher. Et encore une fois de plus, eh bien, on n'a pas le droit de vivre notre bonheur et d'être à proximité de l'un de l'autre. La chose se répète un peu sous une autre forme. Il s'en sort et on sait qu'il va guérir et que ça va aller. On le sait. Il y a 99% de chances que ça se passe bien. Et ça se passe bien. À ce moment-là, ça renforce encore un peu nos liens. Suite à ce cancer, je profite de mon enfant à 2000%. Je profite de mon mari à 2000%. Quand tout s'arrange et qu'on peut de nouveau... être ensemble, ben, on va au ciné, on va au resto, on fait des petits apéros tous les deux le soir. On vit, on décide de vivre. Il ne faut pas mettre les choses entre parenthèses, il ne faut pas attendre que le bonheur arrive. Les choses s'arrangent dans notre vie suite au cancer, même si c'est un gros, gros coup dur. Mais on continue nos projets. On acquiert une maison en Seine-et-Marne près de mes parents. Là, c'est la maison de rêve, en fait, quoi. On a un grand jardin, une grande maison, tout ce qu'il faut pour vivre heureux et bien avec des enfants en bas âge. Donc, suite à tout ça, on décide d'avoir un deuxième enfant. On se pose un peu des questions parce que avec sa thérapie à l'iode radioactif qu'il a eu un an et demi plus tôt, on sait que ça peut altérer un petit peu les capacités à tomber enceinte plus facilement. Et finalement, comme pour Chloé, je tombe enceinte très vite du deuxième au bout de 2 mois. En août 2019, on a notre petit bonhomme Mathéo qui est arrivé. Quand je regarde toute l'histoire là qu'on a traversée, j'ai un peu de mal à croire encore parfois que on est passé par tout ça. Je prends mes enfants dans mes bras et je me dis, ils sont nés de ça, quoi. D'une histoire extraordinaire de leurs parents, quoi. Je pense qu'il faut suivre ce que nous dicte notre cœur, quoi. Ce que j'ai vécu avec Mauricio, cette histoire là qu'on a vécue et qu'on continue de vivre, je pense que si je l'avais vécu plus tard, avec un raisonnement davantage adulte, je me dis que ça aurait peut-être pas abouti en fait. Mais là, la folie de la jeunesse nous a poussés à continuer, à vivre les choses et à réaliser nos rêves, quoi. Quand les sentiments sont très forts, très importants, je pense que c'est plus fort que la raison en fait. Parce qu'à beaucoup de moments, j'ai été tiraillée entre la raison et le cœur, quoi. Et à chaque fois, c'est le cœur qui a décidé.
Merci à Clémentine Delagrange qui a réalisé cet épisode et à Fabien Caluza et Alexandre Ferreira qui l'ont monté et mis en musique. Si vous voulez vous aussi nous raconter votre histoire extraordinaire, envoyez-nous un mail à podcastx1@gmail.com et suivez-nous sur Instagram xpodcast1. Et puis si vous aimez X, parlez de nous et mettez-nous des étoiles et des commentaires, ça nous aide à grandir. Merci.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.